Et oui, puisque c'est la rentrée, et donc nous allons reprendre l'évangile de Marc, d'accord? Comme vous le savez, ceux qui étaient là, eh bien, nous parcourons l'évangile de Marc, verset par verset. On a pris une pause pendant l'été, de deux mois, plus de deux mois, et là on revient, et donc nous sommes dans Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, nous avons bien sûr passé le mi-chemin de l'évangile de Marc, et aujourd'hui, nous attaquons une section vraiment intéressante qui s'intitule la transfiguration. D'accord? Donc j'aimerais lire Marc chapitre 9, les versets 1 à 13. Marc 9, 1 à 13. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y a pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par « ressuscité des morts ». Les disciples lui posèrent cette question. « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Il leur répondit, « Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé ? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. » Eh bien, que Dieu bénisse sa parole ce matin. Quel texte ! Quel événement absolument incroyable et époustouflant. Et c'est ce que nous voulons essayer de comprendre ce matin, pourquoi ce texte est là et quelle est sa signification. Alors je pense que c'est important qu'on regarde un petit peu le contexte parce que ça va être une clé pour comprendre pourquoi il est là. Si on recule d'un chapitre, dans Marc chapitre 8, au verset 31, Jésus vient d'annoncer qu'il allait être mis à mort. Et vous rappelez cet incident, Pierre tente de le corriger en lui affirmant qu'il se trompe au verset 32. Alors il dit au verset 31, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. Il leur dit ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à leur reprendre. Alors, Pierre lui dit, non, tu te trompes. Alors au verset 33, Jésus se tourne, vous connaissez, on l'a regardé, mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Jésus dit à Pierre qu'il était devenu momentanément l'outil de Satan pour le tenter d'éviter la croix à Golgotha. Alors de là, Jésus fait une application tétanisante, je peux le dire, aux disciples, au verset 34. Il dit que si tu veux suivre Jésus, parlant à des disciples, et donc à nous, qui sommes disciples, si tu veux suivre Jésus-Christ en tant que son disciple, alors ça implique trois sacrifices. Au verset 34, il dit, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, premièrement qu'il renonce à lui-même. Le disciple de Jésus renonce à tout ce qui est contraire aux pensées de Dieu, donc à la volonté de Dieu. Deuxièmement, il dit au verset 34 qu'il se charge de sa croix. Le disciple de Jésus doit être prêt à payer le prix fort de le suivre, même jusqu'à la mort s'il le faut. Et au verset 34 encore, « Et qu'il me suive », la troisième chose qu'il doit faire, c'est de le suivre. Il y a un temps, il y a un moment, il y a un instant, lorsqu'on est interpellé, qu'on dit « Voilà, je te suis ». C'est ce qu'on appelle, lorsqu'on reçoit Christ comme Sauveur et Seigneur, on dit « Tu deviens mon Seigneur et mon Sauveur, je te suis, je te donne tout ». Alors, c'est un verset qui fait peur, et je me suis posé la question, mais pourquoi ? Pourquoi un prix à payer pour suivre Christ ? Eh bien, la réponse, vraiment, est dans Jean 3, 19. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Eh bien oui, la lumière de Christ se heurte contre les ténèbres du monde. Et alors, de retour au chapitre 8 de Marc, au verset 36... Jésus dit « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Il souligne que l'enjeu est majeur. Mais oui, lorsqu'on devient disciple, on gagne son âme. Mais si on ne devient pas disciple de Christ, on perd son âme pour l'éternité. L'éternité de l'âme est en jeu. Et au verset 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. » Et voilà, un rappel comme quoi il y aura une fin. Christ va revenir un jour avec ses saints anges. Et à la fin des temps, lorsqu'il revient, ceux qui auront eu honte de lui dans ce monde s'avéreront être des faux disciples et se verront refuser la gloire céleste. Tandis que ceux qui auront eu honte de lui, tandis que ceux qui n'auront pas eu honte de lui, auront accepté les souffrances en tant que disciples authentiques, s'avéreront être les vrais disciples qui recevront la gloire céleste. Donc la conclusion de ce chapitre 8, c'est ceci, en une phrase. Suivre Jésus coûte. Mais suivre Jésus te donne la gloire céleste. Et ça, ça nous amène au chapitre 9. Capital. Pourquoi le récit de la transfiguration apparaît-il ici ? Bien, la raison est simple. Jésus veut tout simplement encourager ses disciples. Il vient de décrire le prix à payer pour le suivre. Ils ont peur. Forcément, ils ont peur. Alors Jésus leur remonte le moral. Il va leur montrer dans le texte de ce matin que la cause de Jésus-Christ, à laquelle ils se sont ralliés, écoutez bien, vaut clairement la peine, malgré les sacrifices engendrés. Il va leur montrer pendant quelques instants la gloire éternelle qui les attend. En fait, il leur montre un avant-goût du ciel. Et une fois qu'ils auront vu ça, ils vont se dire, j'y vais. Et je suis prêt à payer le prix. Donc, c'est un texte important. Et en fait, l'événement de la transfiguration apporte aux disciples 8 encouragements. Et je vous expliquer pourquoi c'est important. Ça fait 19 ans que nous habitons là où nous habitons, en France, voisine. Et nous avons un voisin, que je connais bien depuis ces années, qui est soudainement tombé malade. Il a le cancer. Et il est devenu paralysé des jambes. Et c'est un homme qui marchait des kilomètres, on le voyait pendant des années, il marchait partout. Et soudainement, il est paralysé des jambes. Et donc je vais le voir presque tous les jours. Et tout ce qu'il va entendre de moi, c'est la gloire de Dieu. Il veut entendre les textes bibliques que je lui lis d'encouragement. Il a peur, bien sûr qu'il a peur. Et quand je lui lis ces textes bibliques, il me dit, « Monsieur Glass, quand vous me parlez, vous me dites ça, ça me fait du bien. » Il dit, « Ça me prend ici. » Alors j'espère, mes amis, que ce texte qui nous parle de cette gloire céleste va nous prendre ici et nous dire, « Waouh, waouh, regardez ce qui nous attend. » D'accord ? Alors si vous êtes dans la souffrance, si vous êtes malade, si vous êtes dans l'épreuve, si vous êtes persécuté aujourd'hui, ce clin d'œil vers cette gloire céleste, j'espère, va vous encourager comme cela m'a encouragé cette semaine. Alors, 8 encouragements. Numéro 1, premier encouragement, la transfiguration révèle une promesse de l'avant-goût céleste. Une promesse de l'avant-goût céleste. En fait, il dit au verset 1, il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Et dans Matthieu 17, 28, il est dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point tant qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alors Jésus parle aux 12 et il leur affirme qu'avant leur mort, quelques-uns d'entre eux verrait le Fils de l'homme venir dans son règne, donc le royaume de Dieu, puisque Jésus en est le roi. Alors bien sûr, vous dites ça, vous lisez ça, et certains sont très troublés par ce texte, parce qu'ils disent, mais voilà, les 12 ont vécu et sont morts il y a 2000 ans de cela, Jésus n'est pas encore revenu dans son règne, donc son retour n'a pas encore eu lieu, y a-t-il une erreur ici? Jésus s'est-il trompé? Bien non. Non, il n'y a pas d'erreur. La réponse est que Jésus faisait clairement référence à la transfiguration qui suit ce verset. Deux raisons principales. Premièrement, les trois évangiles, Matthieu 17, Marc 9 et Luc 9, mettent l'événement de la transfiguration juste après cette affirmation de Jésus. Le lien est clair. Et dans 1 Pierre, et ça c'est très intéressant, excusez-moi, dans 2 Pierre 1, à la fin de sa vie, lorsque Pierre écrira son mémoire, ses épîtres, 1 et 2 Pierre, écoutez ce qu'il dit dans 2 Pierre 1 et le verset 16, il dit ceci, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Verset 17, « Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, verset 18, et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Super intéressant de voir que Pierre écrit son mémoire et dit, ben, on était avec lui sur la sainte montagne et on a vu sa gloire. Donc clairement, le verset 1 nous parle de la transfiguration. Donc, une promesse de l'avant-goût du ciel. Deuxième encouragement, la transfiguration révèle le pardon de Pierre. Très intéressant, verset 2, 6 jours après. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. 6 jours après. 6 jours après quoi? 6 jours après le verset 1. C'est évident. Luc, lui, dit qu'il y a 8 jours après, parce que Marc calcule les jours entre les événements, tandis que Luc les inclut. Donc 6 jours. Alors voilà, c'est le mont Tabor. La plupart des commentateurs pensent que le mont de la transfiguration, c'est le mont Tabor. Alors il y a, bien sûr, tout le monde en discute, mais ça paraît être ça. Voici le mont Tabor. Donc c'est un mont, parce que là, on a vu, hein, c'est une haute montagne. Ensuite, et donc il y a bien sûr, il y a beaucoup d'églises sur les sites de la Bible, alors certains sont un petit peu frustrés quand ils vont en Israël, ils voient des églises, mais ces églises, la plupart d'elles ont été construites par Sainte Hélène, c'était la maman de Constantin dans les années 400, mais au moins ça a préservé ce que les gens pensaient vraiment être les sites authentiques. Donc une fois qu'on a compris ça, c'est positif, d'accord? Donc voilà, ensuite, et là on voit très bien que c'est une haute montagne. Donc c'est probablement là, je dis avec crainte et tremblement, probablement sur cette montagne, pas loin de la mer de Galilée, qu'a eu lieu la transfiguration. Donc c'est intéressant de voir qui est sur cette montagne avec Jésus. Il dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il y a Pierre, Jacques et Jean, les trois disciples les plus proches de Jésus. Jacques et Jean étaient frères, les fils de Zébédée, plein de foudre. Mais ce que je trouve moins super ici, c'est de voir Pierre qui est présent. Pourquoi? Mais parce que quelques jours avant, au verset 33 du chapitre précédent, Jésus lui avait dit ça. Jésus, se retournant et regardant à ses disciples, réprimanda Pierre et lui dit « Arrière de moi, Satan !» Car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. C'est le seul disciple à qui Jésus n'a jamais dit ça. Imaginez Pierre, là, vous êtes transpercé par ses paroles. Moi, je ne sais pas, je m'effondre là. Et là, une semaine plus tard, qui est privilégié dans la présence de Jésus ? Pierre. Pierre. Pierre est présent. Mes amis, si vous avez un doute sur le pardon total de Jésus-Christ, bannissez ce doute. Il est prêt à pardonner toute personne de tout péché. Pourquoi sont-ils trois ? Peut-être parce que Deutéronome 19,15 parle de confirmer un fait par deux ou trois témoins. C'est une supposition. Ce qu'on sait, c'est qu'il les conduit sur cette haute montagne, probablement le mont Tabor. Donc le pardon de Pierre, troisième encouragement. La puissance de l'éclat, la puissance de l'éclat. La fin du verset 2, « Il fut transfiguré devant eux. » Regarde le verset 3, c'est presque comique. « Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. » Un foulon, c'est quelqu'un qui blanchit les vêtements. Ils disent, c'était tellement blanc que c'était plus blanc que la blancheur qu'un foulon peut blanchir des vêtements blancs. Ça fait très très blanc. Alors le mot transfiguré, c'est un mot que vous connaissez aussi. C'est le mot métamorphose, littéralement. Métamorphose. Jésus est littéralement métamorphosé, transformé, changé pendant un instant d'une forme à une autre. Cette métamorphose du Seigneur, apparemment, alors j'y étais pas, d'accord, mais apparemment, s'est produite de l'intérieur de son être et a rayonné. Son apparence flamboyait d'un éclat divin. Le texte parallèle nous dit que son visage, Matthieu 17, 2, son visage resplendit comme le soleil. Je ne sais pas, tu regardes quelqu'un et tu vois son visage, un soleil devant toi. Et ses vêtements sont blancs, aussi blancs que vous n'avez jamais vu de votre vie. Alors j'essaie de m'imaginer cette scène. Apparemment, il n'y a pas eu beaucoup de soleil à Genève cet été. Mais alors imaginez un instant que vous êtes à Malaga, sud de l'Espagne. D'accord ? Grand soleil, grand bleu, chaleur extrême, vous êtes au bord de la plage, vous êtes là dans votre transat en train de bronzer, et là vous sentez le soleil mais à fond sur votre visage, et pendant un instant, vous osez ouvrir vos yeux, tic-ding, comme ça. Hein? Vous avez déjà fait ça juste pour voir, est-ce que c'est vraiment le soleil qui brille, vous êtes tic-ding, et là il y a un éclat dans vos yeux. Tel était l'éclat que Jésus produisait ce jour-là, mais... Vraiment intéressant, dans Actes 26, 13, lorsque Paul a été terrassé par la gloire de Jésus, vous vous rappelez, il dit ceci dans Actes 26 et le verset 13 par rapport au soleil. « Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. » Vous savez où il était ? Il était au plein milieu du désert. Du Moyen-Orient, où le soleil est écrasant dans son éclat. Et là, l'éclat était encore plus éclatant, plus blanc que l'éclat du soleil. Alors c'était quoi cet éclat ? C'était quoi cette transfiguration ? Cette blancheur ? Eh bien, cet éclat était tout simplement la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Pendant plus de 30 années, dans Philippiens 2, nous apprenons que Verset 5, ayant en vous ces sentiments qui étaient existants en Jésus-Christ, on est dans Philippiens 2, 6, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Donc, Jésus, lorsqu'il a quitté le ciel, lorsqu'il a quitté cette place divine pour devenir un homme, il n'a pas perdu sa gloire, il a voilé sa gloire. Il a voilé sa gloire en prenant la forme humaine d'un homme. C'est comme s'il brillait dans sa gloire et il a mis cette chair humaine qui a un petit peu voilé cette gloire qu'on a vue zapper de temps en temps, sortir de lui de temps en temps. Et ce jour-là, pendant quelques instants, ce voile, c'est un peu comme Superman, hein, fou, puis là on voit Superman, mais là c'est Jésus-Christ. Pendant un instant, il se dévoile et cet éclat plus brillant que le soleil terrasse tout le monde. Il y a plein d'exemples que vous connaissez, auxquels vous pensez peut-être maintenant dans la Bible, de cet éclat de sa gloire. Par exemple, ça c'est génial. Jean 17,5. Là, tout un message devrait être donné sur ce verset. Jésus dit ceci, et maintenant, il prie. Jésus dit, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Donc, avant que le monde existe, le Fils était avec le Père dans cette gloire céleste. Avant que le monde soit. Avant Genèse 1:1. Donc c'est la même gloire que Jésus connaissait avant son incarnation. Dans Exode 24, on apprend que c'est la même gloire que Moïse a vue sur le mont Sinaï. Exode 24, verset 15. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrait la montagne. La gloire de l'Éternel reposait sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Waouh! C'est encore la même gloire que les enfants d'Israël voyaient autour du tabernacle. Dans Exode 40 et le verset 34, elle couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Tenez-vous, incroyable. Naissance de Jésus. Naissance de Jésus, Luc 2, verset 8. C'est la même gloire que les bergers ont vue lors de la naissance de Jésus. Luc 2, 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux, et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Ben ouais, ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Très intéressant, c'est la même gloire que les disciples ont vue lors du premier miracle de Jésus à Canaan. Jean 2,11, il est dit ceci. J'appelle ça le miracle français, vous allez comprendre pourquoi. D'accord? Tel fut, parce qu'il a converti de l'eau en vin. D'accord? Et c'était du bon vin. D'accord? Et les Français aiment le vin. Mais bien sûr, pas que les Français, on est d'accord. Mais regardez ce qu'il dit au verset 11. Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Voyez-vous, chaque fois que Jésus effectuait un miracle c'est quoi? Bah, c'est un miracle, c'est quelque chose qui se passe qui est complètement hors norme. C'était la gloire de Jésus qui effectuait ce miracle. Et là, les disciples ont réalisé, waouh, c'est vraiment Dieu incarné. Et c'est la même gloire encore dans Matthieu 16, qui sera manifestée lors de son retour un jour. Matthieu 16, 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Vous savez quoi ? Jean était présent à la transfiguration. Écoutez ce qu'il dit dans Jean 1, 14. Jean, qui était, écrit ceci. La parole a été faite chair, parlant de Jésus. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Donc le troisième encourageant, mes amis, c'est simplement qu'ils ont vu la puissance de l'éclat de la gloire de Dieu visuellement. Ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Quatrième encouragement, la transfiguration révèle la personne de Moïse et d'Élie. On est de retour dans Marc 9, verset 4. Regardez, c'est incroyable. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je vois des versets comme ça, je m'arrête et je me dis, voilà, est-ce que j'ai vraiment bien lu là ? C'est vraiment vrai ? Alors tout d'un coup, donc il y a Jésus, Pierre, Jean et Jacques. Et tout d'un coup, il y a Moïse et Élie qui apparaissent aussi, ils sont là. Ils sont maintenant 6. Alors pourquoi Élie et Moïse ? Vous n'avez pas posé ces questions ? Eh bien, probablement parce que ils étaient les représentants suprêmes de la loi et des prophètes. Au travers de Moïse, nous avons reçu la loi. Et au travers des prophètes, dont Élie était le représentant suprême, Dieu a parlé au peuple juif concernant ces événements ultérieurs. Alors c'est intéressant que donc ils sont représentants de l'Ancien Testament, on peut dire, et que leur apparition bien réelle, ils vont discuter, elle est non imaginaire. C'est vraiment un miracle. Ils apparaissent vraiment. Démontre en passant qu'une existence consciente suit la mort. Alors ceci est un problème pour ceux qui préconisent qu'après la mort, il y a un grand néant et il n'y a rien. Mais non, Moïse et Élie sont morts, mais là ils sont bien vivants et reconnaissables après leur mort. Donc il y a vraiment quelque chose après. Il y a vraiment quelque chose. Alors, question, comment est-ce que les disciples ont reconnu que c'était Moïse et Élie ? Vous n'avez pas posé ces questions déjà ? Non, mais t'as voir, parce que Jacques, Jean et Pierre, ben, ils n'avaient jamais vu, ils n'avaient pas Hollywood aussi pour leur donner une bonne image de comment ils auraient pu avoir l'air. Alors, et comment ils ont reconnu ? Bonne question. Alors, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Non, tout ce qu'on peut supposer, c'est qu'il y avait probablement une intuition divine. Une intuition divine. Lorsque Dieu donne une révélation, il la fait complètement, communiquant au receveur tout ce qu'il doit savoir. Et c'est probablement par intuition divine que nous allons pouvoir nous reconnaître aussi dans le ciel. Comment est-ce que vous allez reconnaître, par exemple, un enfant avorté ? Comment on va reconnaître cet enfant ? Par intuition divine, apparemment. Et c'est comme ça qu'on pourra aller rencontrer... Moi, Jean-Baptiste, j'aimerais bien parler avec Lazare, parce qu'il est mort deux fois, lui. Donc ça, je trouve intéressant, j'ai envie de lui poser, tiens, comment c'était de mourir deux fois, parce qu'il a été ressuscité. Comment je vais le reconnaître, moi, Lazare ? J'espère que Dieu va me révéler par intuition divine. Et là-bas, Lazare, il est là-bas, tu peux aller le voir. Je vais y aller, ça va être génial. Alors, de quoi Moïse et Élie parlent-ils avec Jésus ? C'est Luc qui nous le précise, très intéressant, dans Luc 9, 31, Moïse et Élie apparaissent dans la gloire et parlaient, écoutez bien, je cite, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Donc, Moïse, Élie et Jésus discutent. Ils discutent de quoi ? Ils discutent du départ de Jésus qu'il allait accomplir à Jérusalem. Ça veut dire quoi ? Il est parti comment de Jérusalem ? Sur une croix. Il parle de la crucifixion de Jésus, de sa mort. Ben oui, Moïse et Élie n'étaient pas là, simplement on peut dire, « Ouais, c'est super la gloire du Seigneur, tu trouves pas Élie ?» Alors, peut-être qu'ils trouvaient que c'était sympa, mais ce n'était pas le but ici. Non, le but c'était de discuter avec Jésus dans la présence de Pierre, Jacques et Jean, de la mort de Jésus qu'il allait subir à Jérusalem. Alors, il y avait un but clair, c'était quoi le but ? Écoutez bien, d'affirmer que le sacrifice de Christ était parfaitement compatible avec l'Ancien Testament. C'est ça la clé. Mais oui, attendez voir, vous êtes là, Jésus avait déjà annoncé qu'il allait mourir, c'est la panique totale chez les disciples, il y a Moïse et Élie qui arrivent, ils disent, c'est juste, c'est comme ça que ça doit se faire. C'est compatible avec l'Ancien Testament. Tout ce qu'on a écrit pointait vers cela. Vous vous rappelez de Jean 5, 39 ? Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Verset 45 de Jean 5. Ne pensez pas que je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet. Waouh! Donc, ils discutaient de la mort imminente de Jésus, sa crucifixion, sa résurrection, la signification de cet acte, le sacrifice suprême pour le péché des hommes, l'agneau parfait de Dieu qui allait ôter le péché du monde. Ils parlaient de son objectif suprême d'affranchir l'humanité de ses péchés. Alors, imaginez être Pierre, Jacques et Jean, vous dites, waouh, quel réconfort! Alors verset 5, Pierre saisit l'importance de l'événement. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Alors en fait, verset 6 est aussi intéressant, « Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. » Pauvre Pierre, il est toujours le premier à parler, donc parfois et assez souvent le premier à gaffer. Il semble vouloir prolonger l'expérience extraordinaire dont il faisait part. Est-ce qu'il pensait qu'il voyait et évoquait l'accomplissement prophétique de la fête des tabernacles ? Alors, je vous explique. Les experts bibliques affirment que la transfiguration a eu lieu au mois d'octobre. Et c'est justement pendant le mois d'octobre que les Juifs célébraient la fête des tabernacles. Cette fête était une fête où, pendant une période de 7 jours, le peuple vivait dans des petits abris construits de branches, ils le font d'ailleurs encore, des branches et des feuilles de palmiers, pour symboliser les abris temporaires de leur père dans le désert lors de l'Exode. Alors, tenez-vous bien, c'est l'Exode. Qui a mené l'Exode ? Qui ? Moïse. Il était où Moïse, là, maintenant ? Devant Pierre. Mais c'est Moïse qui avait... mener l'Exode. Alors Pierre n'en revient pas. Pierre est un homme logique et impulsif. Il se dit, mais c'est dingue. Moïse, Élie et Jésus sont devant moi. Nous sommes au mois d'octobre. Nous célébrons la fête des tabernacles. Or, Moïse est devant moi. Il dit, il doit y avoir un lien quelque part. Allez, je fabrique des cabanes pour tout le monde. Une pour Moïse, une pour Élie, une pour Jésus. Comme ça, tout le monde est servi. Alors Luc dit que Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Ce n'est pas le moment de construire des cabanes. Non, il était face à quelque chose de bien plus grand là, bien plus grand que de construire des cabanes. Et je pense que Pierre comprend son erreur au verset 7, une nuée vint les couvrir. Et Luc ajoute, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Marc dit tout simplement au verset 6 qu'ils ont été saisis d'effroi. Tout d'un coup il y a une nuée qui arrive, verset 7, une nuée vint les couvrir. D'une manière visuelle, Dieu montre aux disciples que c'était Jésus seul qui devait être l'objet de leur adoration. Moïse et Élie sont cachés par cette nuée, tandis que Jésus reste seul. La suprématie totale de Jésus, de qui ont parlé Moïse et de qui ont parlé Élie. Cinquième encouragement. La transfiguration révèle le Père qui parle. Attendez voir, c'est miracle après miracle après miracle ici. Verset 7. Une nuée tout d'un coup vint les couvrir, donc Moïse et Élie. Et de la nuée tout d'un coup sortit une voix. une voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, verset 8, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Matthieu 9, 6 ajoute, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Alors ce n'était pas la première fois ni la dernière fois que la voix du Père se ferait entendre. Lors du baptême de Jésus, la même voix a retenti. Il y a une différence ici. Il dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé » et rajoute « Écoutez-le. Écoutez-le. » Je crois qu'il y a quatre choses d'importance à voir tout simplement très vite ici. Premièrement, Dieu affirme que Jésus est son fils. Jésus, écoutez mes amis, est le fils de Dieu. Ça veut dire qu'il est de la même nature de Dieu. C'est pour ça qu'on affirme que Jésus est sans péché. Il a la nature sans péché, qui est celle de son Père. Nous, quand on dit qu'on est fils de Dieu, Jean 12, c'est simplement que nous avons été adoptés dans sa famille. C'est différent. Lui, il est le fils de Dieu, même nature de Dieu. Deuxièmement, Dieu affirme que Jésus est son fils bien-aimé, une relation d'amour. Et ça, c'est important, parce que lorsque nous regardons la croix et Golgotha, on se demande si Dieu aimait le fils. Oui, il aimait le fils tellement qui lui a confié la tâche de nous pardonner par son sacrifice. Trois, Dieu affirme qu'en lui, il a mis toute son affection, son bon plaisir. Dieu affirme de manière audible qu'il aime son fils, qu'il l'aime. Il a mis toute son affection. Et quatrièmement, il affirme qu'il faut écouter le fils. Ça, c'est intéressant. Il dit « écoutez-le ». Il dit à Pierre, Jean, Jacques, écoutez-le. Aux disciples, écoutez-le. Ça veut dire quoi? Eh bien, si mon fils vous dit qu'il doit aller à Jérusalem, croyez-le, écoutez-le. S'il vous dit qu'il doit souffrir beaucoup, croyez-le, écoutez-le. S'il vous dit qu'il doit être crucifié, croyez-le. S'il vous dit qu'il doit ressusciter, croyez-le. S'il vous dit que pour être mon disciple, vous devez aller renoncer à vous-même, croyez-le. S'il vous dit que vous allez devoir porter votre croix, croyez-le. S'il vous dit qu'il faut le suivre, alors suivez-le. S'il vous dit que votre salut de votre âme est en jeu, croyez-le. Et s'il vous dit qu'il reviendra un jour dans sa gloire avec ses anges pour juger chacun selon ses œuvres, croyez-le. Et Matthieu 17, 6 nous donne la suite. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Écoutez, je crois que le vase venait de déborder là, complètement. Ils ne peuvent plus humainement contenir tout ce qu'ils viennent de voir et entendre. Ils sont littéralement terrassés, tétanisés. Cette voix du Père les paralyse. Parce que je pense qu'ils prennent conscience, peut-être pour une des premières fois, qu'ils sont vraiment dans la présence de Dieu. Sixième encouragement. La transfiguration révèle des paroles de réconfort. Ça, c'est dans Matthieu 17. Matthieu 17, le texte parallèle, Matthieu 17, 7. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » C'est beau, non? Il est tellement humain. Il comprend tout à fait nos problèmes, nos craintes, nos frayeurs. Et là, il voit ses disciples écroulés par terre. Ils ont peur. Il les touche. « N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. » C'est intéressant, la nuée est partie, Moïse est parti, Élie est parti, il reste Jésus. Il reste Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Les choses étaient redevenues normales. Vous savez, des fois, ça fait du bien de revenir à la normalité, vous ne trouvez pas? Là, normal. Septième encouragement, la transfiguration révèle le plan de la résurrection, verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples ne doutent plus de la résurrection. Et de ce fait, la mort de Jésus qui devait le précéder. Ok Seigneur, on a compris. Moïse et Élie ont tout confirmé. Alors pourquoi est-ce que Jésus leur donne cet ordre ? Ne dites rien jusqu'après la résurrection. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils savaient que le peuple avait des attentes erronées vis-à-vis du Messie. Le peuple cherchait un leader politique, non spirituel. La nouvelle de la transfiguration, eh bien, se serait propagée très vite et aurait provoqué un grand mal, car l'événement aurait servi à répandre des rumeurs extravagantes sur les soi-disant mobiles politiques erronés du Messie. Donc, verset 10, ils retinrent ces paroles, se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par ressusciter des morts. Oui, il y avait encore du flou sur certaines choses, sur la nature de ces résurrections, sur l'après-résurrection. Mais ils ont très vite compris, parce qu'ils en ont écrit. Jean dans Jean, Pierre dans 2 Pierre. Ils ont compris. Et ceci mène au huitième encouragement, la transfiguration révèle la pensée de Dieu sur le précurseur. Écoutez, là, c'est des versets assez intéressants qui tombent là, verset 11. Regardez. Cette transfiguration, surtout avec la présence d'Élie, suscite une question chez les disciples. Verset 11. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé ? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Pourquoi cette question ici maintenant ? Eh bien, ils ont vu Élie en personne, sur la montagne. Ils ont reçu en plus l'ordre de ne rien dire à personne. Alors ça provoque la question, parce qu'ils connaissaient quand même un peu leur Bible. Tout juif connaissait Malachi 4 et le verset 5. Le verset 5 et 6, c'est les derniers deux versets de l'Ancien Testament. Les derniers deux. D'accord ? Tous les juifs les connaissaient. Je vous les lis. Malachi 4, 5 et 6. Voici, Dieu parle. Je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc Malachie dit que Élie va revenir avant le jour du Seigneur. Alors, ils se disent, t'as voir, je viens de passer l'après-midi avec Élie. Ce qui est vrai, en fait. Enfin, peut-être pas l'après-midi, mais un moment. Alors ils se disent forcément, tiens, si Élie est là, est-ce que ça colle avec Malachie 4 ? Est-ce qu'on est en train de voir l'accomplissement de Malachie 4 ? C'est logique. Qui décrit l'arrivée d'Élie avant la venue du Messie ? Ah, donc, c'est le moment d'annoncer ça à tout le monde. Pourquoi est-ce que tu nous dis de ne pas l'annoncer ? Alors, si tu dis qu'on ne doit pas l'annoncer, alors peut-être qu'il y a un problème ici. Réponse de Jésus au verset 12. Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé ? Donc, écoutez ce que Jésus dit, suivez-moi. Jésus déclare que Malachie 4, 5 serait bel et bien accompli. C'est ce qu'il dit. Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses, il le dit. Mais, verset 13, mais je vous dis qu'Élie est venu. Et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Ah, donc là, il affirme qu'Élie est déjà venu. Alors, Matthieu 17, 12 et 13 donne plus de détails. Je lis. Mais je vous dis qu'il y est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Verset 13 de Matthieu 17. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Alors, Jésus dit qu'Élie était en fait déjà venu dans la personne de Jean-Baptiste, mais que les Juifs ne l'ont pas reconnu et l'ont rejeté, et qu'il ferait de même avec le Messie. Alors, question, de quelle manière Jean-Baptiste était-il Élie ? Eh bien, Jésus répond tout simplement qu'Élie, que l'Élie prophétisé dans Malachie 4, 5 ne serait pas, écoutez bien, il ne serait pas une réincarnation littérale de l'Élie dans l'Ancien Testament, mais qu'il serait quelqu'un ayant un ministère similaire à Élie et une personne qui était déjà apparue. Et ça, on le sait à cause de Luc 1, 17. L'ange avait dit à Zacharie, qui est le père de Jean-Baptiste lors de sa naissance, que son fils marcherait avec l'esprit et la puissance d'Élie. Je vous lis Luc 1, 17 en entier, qui dit ceci. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, je ne sais pas si vous me suivez, mais je continue. Dans Matthieu 11, 11, Jésus précisera sa pensée. Il dit, si vous voulez le comprendre, c'est lui, parlant de Jean-Baptiste, qui est l'Élie qui devait venir. Jésus affirme donc que Jean-Baptiste était l'Élie prédit dans Malachie 4, 5, car il agissait avec l'esprit et la puissance d'Élie, selon Luc 1, 17. Mais ça, ça complique la chose, parce que dans Jean 1, 21, écoutez, on pose la question à Jean-Baptiste, « Est-ce que tu es Élie ?» Et ils lui demandèrent, « Quoi donc, es-tu Élie ?» Et il répondit, « Je ne le suis point. » Jean 1, 21. Donc, Jean-Baptiste nie le fait qu'il soit la réincarnation littérale d'Élie, mais il ne nie pas le fait que Luc 1, 17 annonçait « Celui qui marcherait devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie parlant de lui-même. » Donc, l'Élie était bien Jean-Baptiste. L'Élie qui devait précéder la venue du Seigneur. Dernière chose. Dans Matthieu 17, verset 10, petit détail intéressant. Les disciples lui posèrent cette question, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. » Alors ça, c'est vraiment marrant. Jésus dit, « Il est déjà venu, mais il doit encore venir. » Ceci donne l'impression qu'il y a encore un élément futur par rapport à tout cela. Post-Jean-Baptiste. Certains commentateurs pensent donc qu'un autre personnage, au nom d'Élie, viendra avant le retour de Jésus. Et certains pensent qu'il s'agit des deux témoins dans Apocalypse 11. Beaucoup sont convaincus que ces deux témoins seront Moïse et Élie. On ne sait pas. Mais beaucoup de gens pensent cela. Donc d'un côté, il est déjà venu dans la puissance et l'esprit d'Élie, Jean-Baptiste, mais peut-être encore un viendra, un des deux témoins, pour annoncer le retour réel du Seigneur. Alors, quelle est l'importance à retenir ici? On arrive vers la fin. Ressortons les détails. Qu'est-ce qu'on apprend? Le voici. Le plan de Dieu avance parfaitement selon son plan défini, aussi bien qu'une horloge suisse. Dieu accomplit tout ce qu'il décide d'accomplir, et il l'accomplit parfaitement. Les prophéties continuent de s'accomplir. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est notre compréhension parfois voilée de ces vérités. On a des indices, on essaie de comprendre, et il faut essayer de comprendre, mais des fois, on se gratte la tête. Et moi, le premier. Donc, il faut être humble. Et dire, écoute, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je vois tout ce qui s'est déjà accompli. Moi, c'est sûr que la suite va s'accomplir telle qu'elle. La manière que toi, tu la comprends. Tu sais, j'ai entendu la réponse d'un pasteur connu aux États-Unis, à qui on a posé cette question récemment. Quelqu'un lui a dit, « Avec tous les problèmes que nous voyons dans le monde évangélique aujourd'hui, quelle est votre opinion sur comment se porte l'Église en général aujourd'hui ?» Voici sa réponse. L'Église de Jésus-Christ ne s'est jamais aussi bien portée dans l'histoire du monde. Christ bâtit son Église et tout se passe exactement selon son plan prédéfini. Moi, j'ai entendu cette réponse et je me suis dit, ça fait du bien. Parce que nous, on peut regarder humainement à tout ce qui se passe, les églises, les problèmes, hein, on en connaît tous. Et se dire, aïe, 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 aïe. Non, non, il ne faut pas paniquer. Tout se passe selon le plan parfait de Dieu. Vous dites, même les choses mauvaises, ben, dans une manière très mystérieuse, oui. Oui. Parce que vous connaissez aussi bien que moi, Romains 8, 28 dit que toutes choses concourront bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Même le mal. Même le péché. Ça ne veut pas dire qu'il aime le péché, mais Dieu utilise le péché pour et à sa gloire. Donc, tout se passe exactement comme Dieu voulait que les choses se passent. Et pour moi, c'est extrêmement réconfortant de le savoir. Alors, quelle application pour faire de la transfiguration? Eh bien, mes amis, dans ce récit de la transfiguration, Dieu nous donne un avant-goût céleste de la gloire éternelle qui nous attend. Et un jour, nous allons resplendir comme Christ, une fois que nous serons avec lui dans sa présence. Écoutez ces quelques versets que vous connaissez encore, 1 Corinthiens 15, 52. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Certains, si l'enlèvement arrive aujourd'hui, ben, on ne va pas mourir, on sera pris. D'autres meurent avant ces jours. Mais tous, nous serons tous changés, dit-il, verset 52, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Verset 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Il y a deux applications, mes amis. Premièrement, les souffrances que nous connaissons sont temporaires. Elles sont temporaires. Romains 8, 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Mais oui, c'est temporaire. Et je parle à mon voisin, il est paralysé, il est frustré, je suis frustré avec lui. Mais je lui dis, tu sais, c'est temporaire, c'est temporaire. Dieu peut te guérir, peut-être qu'il va pas te guérir, mais tu sais quoi? Si tu connais Christ, la gloire céleste est sûre. Elle est certaine. Donc la souffrance, elle est temporaire. Et ça, c'est encourageant, vraiment. Et deuxièmement, la gloire future met en perspective notre objectif de vie. C'est le dernier verset que j'ai lu, le verset 58, dans 1 Corinthiens 15. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. » Ça, c'est pour nous, nous qui connaissons Christ. « Soyez inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. » Je me dis, mais t'as voir, si c'est ça qui nous attend pour toute l'éternité, où est-ce que je devrais vraiment m'investir? Ben, dans l'œuvre du Seigneur. Et donc, je vous demande de considérer en cette année l'œuvre du Seigneur. Comment vous allez servir avec les dons que Dieu vous a donnés? On est là pour le servir, mes amis. Je termine avec ceci. Dans un camp de prisonniers nazis lors de la Seconde Guerre mondiale, des prisonniers américains ont construit un poste de radio fait maison clandestin. Un jour, ils écoutaient la radio et ils ont entendu comme quoi le haut commandement allemand s'était rendu, marquant ainsi la fin de la guerre. Mais en raison d'un problème de communication du côté allemand, les gardiens n'étaient pas au courant de la nouvelle. Comme la rumeur s'est répandue parmi les prisonniers, une célébration joyeuse a éclaté dans la prison. Pendant 3 jours, les prisonniers ont chanté, ils saluaient les gardes avec des grands sourires, et faisaient même des blagues lors des repas. Et le quatrième jour, ils se sont réveillés pour constater que tous les Allemands avaient fui le camp. Leur jour de libération était arrivé. Intéressant. Ils savaient qu'ils étaient libérés, bien qu'ils ne l'étaient pas encore en réalité, et donc ils étaient dans la joie, malgré le fait qu'ils étaient encore en prison. Eh bien, la transfiguration pour nous, mes amis, est la nouvelle que nous venons de recevoir ce matin de notre poste de radio spirituelle. Comme quoi la gloire de Dieu est là. Elle est ici. Le ciel est là. Nous l'avons avec certitude, nous qui connaissons Christ. Nous savons que nous allons être réunis un jour avec lui. Nous le savons, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore totalement. Ceci dit, comme pour ces soldats, nous pouvons nous réjouir de ce que nous savons nous attend. Et Jésus a dit à la fin de l'Apocalypse ses dernières paroles, « Je viens bientôt. » Nous attendons ce jour avec joie. Est-ce que je peux entendre un amen ? Amen. Ouf, ça c'est un texte. Incroyable ce que la Bible nous révèle par rapport à la gloire à venir. Écoutez, je ne vous connais pas tous. Et puis même ceux que je connais, je ne connais pas votre cœur, il n'y a que Dieu qui le connaît. Et je te pose une question toute simple. Est-ce que tu es chrétien ? Est-ce que tu es chrétien ? Est-ce que Christ est ton sauveur ? Est-ce que tes péchés sont pardonnés ? Moi, j'espère que tu ne vas pas quitter ce lieu ce matin si tu n'es pas sûr, parce que tu veux rater ça ? Tu veux rater ça ? Ah non, c'est trop beau, quoi. C'est trop beau. Si tu sors d'ici en ratant ça, oh là là, je serais vraiment triste, quoi. Mais je ne te connais pas parfaitement, donc je ne sais pas qui ça concerne exactement. Ah ben, on va prier, et si tu n'es pas sûr de ton salut, si tu n'es pas sûr, eh bien, maintenant, demande-lui à venir et devenir ton sauveur et ton Seigneur. Et toi, chrétien, tu le connais, tu sais que cette gloire arrive. Moi, je te pose la question, et quoi alors dans ta vie ? Est-ce que ça va te motiver cette année ? Te dire, écoute, Seigneur, ben, je veux te servir d'autant plus, avec zèle, dans l'équilibre, bien sûr. Seigneur, montre-moi comment je peux te servir. Peut-être qu'il va revenir cette année, Jésus. Moi, je suis prêt. Hein. Moi, je suis prêt. Imaginez qu'il revienne cette année. Ce serait pas mal, non ? Seigneur, fais ton œuvre. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui ne connaît pas Christ ? Si c'est ton cas, demande-lui tout simplement maintenant, dans tes paroles, Jésus. Jésus, pardonne mon péché. Lave-moi. Prends ma vie, prends tout, Seigneur. Transforme-moi. Donne-moi cette espérance. Et si tu connais Christ ce matin, comment est-ce que ce message va te motiver pour cette année ? Seigneur, merci et merci encore. Nous t'aimons, nous te louons. Merci pour ton amour, pour ton pardon, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.